Bonjour. Voilà, j'aimerais que nous continuions et que j'aimerais terminer cette prédication en trois parties que j'avais commencé il y a quelques semaines. Donc on est dans Éphésiens 4 et je vais lire chapitre 2, verset 25 à Éphésiens 5, 21. Éphésiens 4, à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge ou renoncez à la fausseté et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà un long passage que je ne vais pas commenter en détail, parce qu'il y a de quoi écrire une bibliothèque avec ça. Mais j'aimerais prendre quelques points à la suite donc des prédications précédentes que j'ai faites. En gros, l'épître aux Éphésiens comprend deux parties, les trois premiers chapitres, qui sont une exposition de la part de Paul du salut merveilleux que Dieu a accompli au travers de Jésus-Christ. Il nous parle de la rédemption, il nous parle de l'adoption, de l'héritage qui est le nôtre, la puissance que nous recevons. Enfin, toutes ces choses-là sont les trois premiers chapitres. Les trois chapitres suivants sont, d'une certaine manière, la mise en pratique. Puisque Christ a accompli ce salut, eh bien, faites ceci, faites cela. Ce sont des injonctions pendant les trois chapitres qui suivent. Et donc, ce chapitre 4 fait un peu la charnière entre ces deux parties, et c'est ce que je me suis appliqué à vous exposer. Et à la fin du chapitre 4 et le chapitre 5, il y a donc les injonctions de l'apôtre Paul. Et je me suis dit que j'allais en prendre quelques-unes, puisque ce sont elles qui marquent le fait que nous vivons en nouveauté de vie. Ce sont elles qui nous incitent à marcher selon la vocation qui est la nôtre, en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais aussi corporellement en tant qu'Église, puisque on retrouve très souvent cette expression « les uns et les autres ». J'ai pris essentiellement les injonctions positives. L'apôtre Paul dit « ne faites pas ceci, mais faites cela ». Et donc je suis appliqué à prendre les injonctions positives, c'est un choix. Mais il y en a tellement que, de toute façon, on ne peut pas les voir toutes. J'aimerais rapidement rappeler quel était le verset à l'origine de cette prédication. Et on va le prendre dans Genèse 22, au verset 17. C'est donc la promesse qui est faite à Abraham. Genèse 22, verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Nous avions ensuite vu que dans Luc, Zacharie reprend en partie cette prophétie. Dans Luc 1, au verset 68 à 75, mais béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, verset 68, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. Nous avions dit qu'il fallait bien un puissant sauveur pour faire en sorte que l'homme, cette montagne d'immoralité, puisse passer des ténèbres à la lumière. Il fallait bien que le sauveur soit puissant. Et verset 74, il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Voilà le plan de Dieu pour son Église, le résultat final étant la gloire de Dieu. Ensuite, nous avions évoqué que l'entrée dans la vie nouvelle, c'était le résultat d'un dépouillement, le dépouillement de la vie ancienne pour pouvoir revêtir la vie nouvelle. Nous avions vu qu'il y avait trois attitudes, celle de se soumettre à la voix de l'Esprit de Dieu, celle d'apprendre Christ et celle de faire de notre conversion non pas seulement une journée ou un moment, mais de faire de cette conversion un événement permanent, une continuité. Donc aujourd'hui, je vais terminer donc avec ces injonctions de l'apôtre Paul. Celles qui, comme je l'ai dit, ont principalement un caractère positif et qui est en lien avec notre sujet, qui est donc de revêtir l'homme nouveau. Verset 25, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Dans Zacharie, il est dit, voici ce que vous devez faire, dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Plus haut, il est dit, renoncez au mensonge. C'est pas renoncer au mensonge au pluriel. C'est pas arrêter de mentir. C'est inclus dedans. Mais ce n'est pas principalement ça que dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas arrêter de dire des mensonges. Il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'apôtre Paul parle en fait de candeur. Il parle d'innocence. De confiance les uns envers les autres. N'est-ce pas? Parler selon la vérité, c'est lorsque l'on dit quelque chose à quelqu'un, c'est lui dire sans arrière-pensée, sans intention secondaire. Et malheureusement, parfois, on s'aperçoit que les discours ne sont pas aussi clairs que cela. C'était le grand problème des pharisiens. Et c'est ce que Jésus leur reprochait. Lorsque les pharisiens venaient pour lui poser des questions, c'était toujours avec une intention secondaire. Ils posaient une question ouvertement, mais en réalité, ce qu'ils voulaient, c'était le piéger. N'est-ce pas? Les pharisiens avaient une grande notion de ce qu'était la droiture et la justice. Ils élevaient leurs enfants dans la vérité. Ils les éduquaient à ne pas mentir. Ils les éduquaient à dire toujours la vérité et à faire les bonnes choses. Mais ils n'étaient pas eux-mêmes dans la vérité. Ils ne parlaient pas selon la vérité. Tout en eux était mensonge. Et Jésus leur reprochait cela. Il leur reprochait lorsque, ayant peaufiné leur propre théologie, ayant déjà toutes les réponses à leurs questions, ils se permettaient de venir, lui, le voir, lui, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, pour essayer de le piéger. Et c'était pathétique. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous vous parlez, parlez-vous avec vérité. Qu'il n'y ait derrière votre discours pas un deuxième discours ou un troisième. N'essayez pas de vous tromper les uns les autres dans la façon dont vous communiquez entre vous. Parce que ça vous fait du tort à vous et ça fait du tort à l'Église. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La fausseté, c'est en réalité une œuvre des ténèbres. Et en fait, on apprend la fausseté depuis qu'on est enfant. On apprend comment tromper les gens pour en tirer le maximum. C'est terrible de dire ça. Mais selon vos moyens, selon votre caractère, selon votre intelligence, selon votre position sociale, eh bien vous êtes, selon votre éducation, vous êtes tenté de faire de la fausseté un mode de vie à cause du bénéfice que vous pouvez en retirer. Et plus les gens sont faibles, c'est-à-dire sans moyens physiques pour se défendre, ou sans moyens intellectuels pour se défendre, eh bien, plus la tentation est grande d'utiliser les capacités que l'on possède pour s'éduquer soi-même à la fausseté et retirer des autres ce que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Nous avons besoin d'être délivrés de cela. Nous avons besoin que le Seigneur Jésus vienne et fasse un miracle dans nos vies pour que cela disparaisse. Parce que si nous insistons de cette façon, si nous continuons à vivre de cette façon, c'est une porte largement ouverte pour le malin, qui peut s'emparer de nos vies et qui peut aussi utiliser cette porte ouverte pour pénétrer dans les relations interpersonnelles dans l'Église. Je vais plus loin, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Ça commence dans le couple. Marie, soyez bons avec vos épouses. Épouse, soyez bons avec votre mari. La bonté est nommée dans Galates 5, 22 comme étant un fruit faisant partie du fruit de l'esprit. Pratiquer la bonté les uns envers les autres, c'est veiller à ce que chacun se sente à l'aise, à ce que chacun se sente aimé. C'est la bienveillance. Et nous ne sommes pas toujours bons de caractère. Il y a des gens, c'est leur caractère. Ils sont bons, ils sont bienveillants. Mais lorsque nous venons au Seigneur, nous ne sommes pas nécessairement bons et bienveillants. Il y a alors des choses que nous devons apprendre. Il y a des leçons que le Seigneur veut nous donner pour que nous apprenions à devenir bienveillants. Nous héritons un caractère, celui de nos parents, de nos grands-parents. Et lorsqu'on y pense, on est même parfois un peu fier de ce caractère, parce que c'est un héritage, c'est un patrimoine familial, n'est-ce pas? C'est ce qui fait notre identité en tant que famille. C'est ce qui nous unit. Et certaines familles, et là, je pense à moi-même, à ma famille, ont des caractéristiques qui font que même si ce caractère est un sale caractère, eh bien, on est d'une certaine manière attaché à cela. Voilà, parce que c'est ce qui me fait moi. C'est mon identité. C'est ce que je suis. Et quand je vois mon père, mon frère, mon grand-père, ma sœur, eh bien, je me vois en eux et donc, ça nous unit. Même si l'on sait que par ailleurs, ce caractère a des conséquences graves sur les personnes, et notamment le manque de bienveillance, le manque de bonté vis-à-vis des autres. Mais vous savez, lorsque l'on rencontre le Seigneur, alors on a besoin de changer. On a besoin d'abandonner cette fierté, d'appartenir à cette famille qui, par ailleurs, peut avoir beaucoup de succès dans certains domaines, mais qui en même temps a cette capacité de détruire tout ce qu'il touche. Cette capacité de dénigrer, cette capacité de juger, de sorte que lorsqu'on se retrouve en compagnie de ces personnes, autant on peut admirer leurs grandes compétences, autant on se sent mal, mal aimé, mal considéré, dénigré, rejeté. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous sommes tous héritiers de liens familiaux qui peuvent être bons, moins bons, qui peuvent apparaître brillants pour certains. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça qui doit gouverner nos vies. Ce n'est pas ça qui doit être le lien qui doit participer au lien que je crée avec les uns et les autres dans l'Église. Je dois me défaire de cette identité familiale, de ce caractère qui n'est pas bienveillant, qui est exclusif. Et je dois apprendre à devenir bon. Peut-être à l'opposé de ce qu'était le caractère de ma famille. Mais pourtant, c'est ce que Dieu demande. Que tu deviennes bon, bienveillant, avec ton prochain. Qu'il se sente aimé. Qu'il se sente mis en valeur. Qu'il se sente respecté pour qui il est et pour ce qu'il est. Soyez bons les uns avec les autres. Être bon, c'est revêtir le caractère de Christ. On l'a lu plus haut. Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. C'est revêtir le caractère de Christ. Et quand vous avez revêtu le caractère de Christ, vous apercevez que vous n'avez plus le même rapport avec les personnes. J'étais longtemps envieux de la façon dont certains chrétiens que j'avais en face de moi avaient entretenu des relations chaudes et amicales, attiré les gens à eux facilement. Et j'étais longtemps envieux de cela. Et ma prière, c'était: Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme cela? Pourquoi est-ce que les gens vont toujours chez cette personne, chez celle-ci, chez celle-là, et que moi je n'ai pas ça? Et le Seigneur m'a montré. Il m'a montré que c'était mon caractère qui devait changer. Non pas que je devais me forcer à être gentil, affable, et tout, mais que l'Esprit de Christ devait pénétrer en moi de telle sorte que tout ce qui chez moi crée du rejet disparaisse. Et que les gens, au lieu de me voir comme un porc-épic, puissent me percevoir comme quelqu'un qui est capable de les aimer, de leur tendre les bras, de les comprendre. Alors vous me direz, c'est pas gagné encore, je sais, mais bon, on s'améliore. Ça a changé. C'est pas que Dieu veut faire de nous des chiffres molles, des gens sans colonne vertébrale. Il ne s'agit pas de ça. Mais ce ne sont pas nos caractères qui font de nous des hommes de Dieu. C'est la pensée de Christ qui fait de nous un homme et une femme de Dieu. Et c'est ça qui attire. C'est lorsque la réalité de la pensée de Christ s'exprime au travers d'un corps, d'un cœur, d'une pensée. C'est même notre façon de bouger qui est modifiée. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes avec des convictions fortes. Mais dans la bonté et dans la douceur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Nous sommes appelés à nous pardonner mutuellement. Parce que, on le dit facilement, n'est-ce pas, le pardon est une puissance qui libère. Alors ça, il y a un titre d'un bouquin comme ça. Le pardon, une puissance qui libère. Sauf que la parole de Dieu, et notamment Jésus, nous dit qu'il faut pardonner de tout votre cœur. Ça veut dire que ce n'est pas juste avec les bouches, avec la bouche. C'est avec le cœur qu'on pardonne. Et on pardonne. Parce que sinon, on n'est pas pardonné. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que si nous ne pardonnons pas, eh bien Dieu ne nous pardonne pas non plus. Alors je vais le répéter, au cas où quelques-uns n'auraient pas entendu. Si nous ne pardonnons pas, alors, et sans exception, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Il y a des gens qui se demandent pourquoi leur vie spirituelle va à volo. Ils se demandent pourquoi le Seigneur ne leur parle plus. Pourquoi ils n'arrivent plus à avancer. Pourquoi la marche avec Dieu est difficile. Pourquoi est-ce que tu es sourd, Dieu ? Et la réponse vient comme une torpille dans nos têtes. Pardonne, pardonne, pardonne. Et on le cache, et on oublie, et on essaie de penser à autre chose. Et ça revient plus tard. Et la réponse de Dieu est invariable. Tant que tu n'as pas pardonné, tu n'avanceras pas d'un centimètre sur ton chemin avec moi. Frères et sœurs, nous ne devons pas prendre à la légère ces choses. Nous devons pardonner de tout notre cœur, afin que Dieu puisse lui-même nous pardonner. Sinon, ça n'ira pas et nous serons bloqués là où nous sommes arrêtés. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas un passage annexe, il n'y a pas un raccourci. Il faut que ça parte de là où ça s'est arrêté. Pardonne. Si nous ne pardonnons pas, nous souffrons. Et nous souffrons inutilement. Et la cause, c'est uniquement notre orgueil. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas la personne qui nous a fait du mal. C'est notre orgueil. Pardonner édifie l'Église. Si nous sommes des hommes et des femmes et que nous savons pardonner, franchement, de tout notre cœur, c'est aussi l'action de Dieu dans l'Église qui va grandir. Vous savez, on se demande pourquoi dans les pays où nos frères sont persécutés, nos frères et nos sœurs et leurs enfants sont persécutés, on se demande pourquoi les églises grandissent et pourquoi il y a une telle bénédiction de Dieu. C'est parce que eux-mêmes savent pardonner à ceux qui les assassinent. Vous savez, ces choses sont loin de nous, d'une certaine manière, en distance. Alors notre affection est proportionnelle au kilomètre qui nous sépare de nos frères. Mais réellement, c'est ça qui se passe. c'est qu'alors qu'ils sont dans la tourmente, alors que leur mari, que leur femme ou que leurs enfants sont assassinés, eh bien, ils arrivent à pardonner. Oh, je ne suis pas en train de dire que c'est facile et que ça se fait comme ça du jour au lendemain. Mais ils arrivent à pardonner. Et Dieu peut bénir. Il peut bénir non seulement les églises, mais il peut aussi bénir les bourreaux, les persécuteurs, qui eux-mêmes se tournent vers Dieu, donnent leur vie au Seigneur, et eux-mêmes deviennent persécutés ensuite. Vous savez, lorsque nous sommes capables de pardonner à notre bourreau, c'est là que s'accomplit la prophétie qui a été faite à Abraham. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Parce qu'évidemment, c'est la dernière arme du malin que de détruire, que d'essayer de créer le trouble dans l'esprit des personnes qui vivent le martyre. Parce que dans Job, vous vous rappelez ce qu'a dit la femme de Job ? Maudit Dieu et meurt. C'est ça que Dieu, que Satan cherche. C'est que les croyants maudissent Dieu. Et donc il les amène dans leurs dernières extrémités. Mais ils ne le font pas. Je lisais, quand je travaillais sur cette prédication, un texte qui concernait la situation des chrétiens à l'époque en 100 après Jésus-Christ. C'était un texte de Pline le Jeune à Trajan, une lettre. Et Pline racontait comment il testait les gens pour savoir s'ils étaient chrétiens. Alors il leur demandait d'adorer des statues et des dieux et d'adorer l'image, l'effigie de Trajan. Et lorsqu'ils refusaient de le faire, eh bien, ils savaient que c'était des chrétiens. Et donc, ils les exécutaient. C'était un moyen infaillible. Le chrétien n'adore pas un autre Dieu que Dieu. Ce n'est pas possible. C'est inscrit dans ses gènes spirituels qu'il ne peut pas adorer un autre Dieu que Dieu lui-même. Mais même ça, Satan cherche à l'attaquer. Maudit Dieu et meurt. Lorsque nous pardonnons à nos bourreaux, eh bien, c'est la preuve que nous sommes installés dans les portes de notre ennemi. C'est la preuve que nous sommes présents dans son camp et que nous sommes victorieux. La vie physique n'a pas grande importance à ce stade-là. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait dans le cœur d'un homme. Ce qui compte, c'est ce que Dieu voit au travers de l'enveloppe charnelle, à l'intérieur de nous, la vie de Christ. Il n'y a pas d'arme contre l'amour. N'est-ce pas? Si on vous frappe et qu'en réponse vous donnez de l'amour, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de vous frapper plus fort ou d'être convaincu? Il n'y a pas d'arme contre l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue au chapitre 5 et au verset 2. Marchez dans la charité. Marchez dans l'amour. La marche, c'est une action facile à réaliser pour un adulte. À partir du moment où il est valide, eh bien, marcher, ça se fait sans y penser. Ça devient plus difficile lorsqu'on prend de l'âge. Mais pour la plupart d'entre nous ici, c'est facile de marcher. Pour un enfant qui apprend, qui passe de la position 4 pattes à la position 2 pattes, c'est plus compliqué. N'est-ce pas ? Parce qu'il doit prendre des risques. Il doit se lever et rapidement, il sait qu'il va tomber et peut-être se faire mal. N'est-ce pas ? En tombant, on se cogne la tête à la chaise. Enfin, il y a des choses terribles qui se passent lorsque les enfants, ça peut être un carnage parfois, vous avez dit, enfin ceux qui ont des petits là, vous savez de quoi je parle, et ceux qui ont des plus grands, vous savez aussi de quoi je parle. Mais marcher, ça implique justement qu'on est d'accord de prendre des risques. Voilà. C'est accepter aussi de perdre l'équilibre. Mais au fil du temps, ce qu'on apprend à faire, c'est qu'on apprend à se rééquilibrer en permanence. Et c'est ce qui nous permet de marcher. C'est qu'en réalité, on est toujours en déséquilibre lorsqu'on marche. Mais on est aussi toujours dans un déséquilibre contrôlé. Voilà, et c'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il utilise le terme « marcher ». Dans l'amour. Parce qu'évidemment, il sait parfaitement que d'aimer, c'est une affaire sérieuse. Et qu'on n'est pas, on ne dit pas juste d'un claquement de doigts, allez, je t'aime, quoi qu'il arrive, quoi que tu m'aies fait, même si tu as massacré ma famille, il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça. Il y a l'histoire de cette femme, la femme d'un pasteur qui a perdu son époux, qui a été assassiné devant ses enfants, mis en pièces. C'était un pasteur qui avait une grande église, que le Seigneur avait béni abondamment. Et elle a mis du temps à pardonner. Elle a mis du temps à pardonner. Mais elle a pardonné. C'est ça que ça veut dire marcher dans l'amour. C'est-à-dire que tant que ça n'est pas fait, tant que vous n'arrivez pas à aimer, eh bien n'abandonnez pas. Continuez, priez, plaidez devant le trône de la grâce pour que vous soyez capable de le faire. Et Dieu vous l'accordera. C'est aussi le témoignage de Corrie ten Boom. Tous ceux qui ont souffert et qui vraiment ont connu le Seigneur ont réussi à pardonner. Marcher, aimer en toutes circonstances, dans tous les contextes. Ce n'est pas une chose facile et Dieu le sait. Et il nous aide à l'accomplir. Verset 9, marcher comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dans Jacques, Dieu est appelé le Père des Lumières. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire que nous sommes des enfants de lumière, puisque Dieu est le Père des Lumières. Il est le Père des Lumières chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Or, les ténèbres sont tout changement et variation. C'est ce que Pascal aime à dire. C'est les gris. Eh bien, Dieu n'est pas gris. Dieu est clair. Et il n'y a pas chez lui de modification de forme. Tout ce qui est ténèbres est soumis à ombre et à variation. mais nous sommes appelés à vivre selon le caractère de celui qui est notre Père, dans la lumière. Et nous sommes appelés à nous séparer de ce qui est des ténèbres. Vous savez, je me souviens que il y a un bon nombre d'années maintenant, lorsque je travaillais dans un dépôt comme préparateur de commandes, j'étais tout jeune converti, tout jeune chrétien, et j'avais avec moi un tuteur, quelqu'un qui m'apprenait le travail, qui était chrétien, que le Seigneur même avait utilisé pour me parler du Seigneur. Un jour, je vous raconterai. Quelle histoire. Cet homme était chrétien. Et il était là, on était là donc sur un transpalette, et puis un truc automatisé, quoi. Et il parcourait le dépôt, il m'expliquait les rangs, tous les rangées, tout ce qu'il y avait. Donc le travail, c'était de remplir des palettes, quoi, les empiler. Et donc, et on passe devant un groupe de gars là qui étaient en principe en train de travailler, mais n'étaient pas en train de travailler. Ils avaient quelque chose dans la main. Et quand il est passé, ils ont fait comme ça. Alors j'ai dit, c'est étrange. Et alors il s'est mis à éclater de rire. Il m'a dit, tu vois Daniel, ils savent que je suis chrétien. Et ce qu'ils étaient en train de faire, c'est qu'ils étaient en train de voler dans les paquets de bonbons. Mais ils savent que je suis chrétien. Et ils ont honte de ce qu'ils font quand ils me voient. N'est-ce pas? Marcher comme des enfants de lumière. Le simple fait d'être là où se passent les méfaits fait que le contraste est tel que ça fait honte à ceux qui commettent des péchés. C'est aussi l'histoire de mon papa qui me disait que lorsqu'il avait été pour la première fois à une évangélisation, en tant que jeune homme, il était fumeur à l'époque, et il s'est adressé à l'évangéliste après la réunion, il discutait, et il m'a dit, lorsque cet homme a commencé à me parler, j'ai pris ma cigarette et je l'ai cachée derrière mon dos, parce que j'avais honte. Est-ce que nous avons honte lorsque nous nous trouvons en présence de la lumière? Ou est-ce que nos cœurs sont endurcis au point que ça ne nous fait plus rien du tout? Si c'est le cas, il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Il faut que vous priez pour que le Seigneur adoucisse votre cœur et vous donne à nouveau la possibilité d'entendre sa parole. Sa voix. Je vais m'arrêter là. Il y en a encore beaucoup. Il y avait encore racheter le temps. Comprenez quelle est la volonté. Soyez remplis. Entretenez-vous par des psaumes. Pour revenir pour terminer avec ça, Apline le jeune, il disait à Trajan, les chrétiens, lorsqu'ils se réunissent, chantent des hymnes à la gloire de Jésus-Christ, comme s'il était Dieu. N'est-ce pas un merveilleux témoignage de ce que le Seigneur Jésus est Dieu? Hein, on dit de ce texte que c'est le premier témoignage païen de Jésus-Christ et des chrétiens qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Ils chantent des hymnes à la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons un chant dans notre cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le matin, lorsque nous nous levons, c'est encore une sale journée? Ou est-ce que c'est un chant qui s'élève? Oh, encore une glorieuse journée avec le Seigneur. Est-ce que nous avons des mots inventés de notre composition? Des mélodies de notre composition? Des choses qui sont inchantable parce que on n'est pas musicien, mais qui sont personnels, qui nous appartiennent. Est-ce que nous avons des mots d'amour pour le Seigneur? Dans les couples, en général, il y a des mots d'amour. Ma biche, mon canard. Il y en a d'autres que je connais que je ne vous dirai pas, mais... Mais c'est parfois ridicule, n'est-ce pas, si on se les disait chacun. Mais qu'est-ce que ça marque? Ça marque une intimité, une relation, un rapprochement, l'amour. Est-ce que nous avons cette intimité avec Dieu qui fait qu'entre lui et moi, eh bien, je peux avoir une expression qui est personnelle. Ça ne regarde personne d'autre que lui et moi. Je vous invite à laisser aller votre cœur vers le Seigneur, à ouvrir grand les portes de votre cœur, pour qu'il puisse venir avec tout l'amour qui est le sien, vous emmener dans sa gloire, vous faire comprendre des vérités merveilleuses. Vous savez que Dieu peut faire en sorte que vous sentiez à l'aise dans votre vie. Dieu peut faire en sorte que vous sentiez content dans le corps que vous avez. Dieu peut faire que votre vie passée soit réellement du passé et que votre vie nouvelle soit réellement une vie nouvelle. Est-ce que vous savez que Dieu peut le faire? Est-ce que vous avez commencé à l'expérimenter? Frères et sœurs, sommes-nous en route pour nous installer dans le camp de l'ennemi? Si nous avons entièrement revêtu Christ, alors nous possédons la porte de nos ennemis. Et quoi qu'il puisse nous faire, ce n'est pas lui qui nous fait du mal, c'est nous qui faisons du mal à l'ennemi. Si nous sommes en chemin, si nous nous dépouillons sincèrement de la corruption du vieil homme, alors le Seigneur nous accorde des victoires, victoire après victoire. Et si nous rechignons à obéir, à nous soumettre à sa parole, si nous ne pardonnons pas sincèrement, si nous voulons garder la maîtrise de notre temps, de nos actions, de notre vie, alors nous sommes en danger. Et il se peut fort bien que ce que nous prenons pour de la lumière spirituelle soit en réalité de profondes ténèbres. Qu'en réalité ce soit de l'aveuglement. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous revêtir de Christ. Et il souhaite que nous lui ouvrions notre cœur pour cela. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. qui est un don si merveilleux. Merci Seigneur pour les enseignements que nous y trouvons. Seigneur, je prie pour moi-même et pour mes frères et sœurs, afin que nous puissions te recevoir pleinement, pour que nos vies soient utiles aux uns et aux autres, dans la communauté, mais aussi pour le monde, et aussi, Seigneur, pour ceux qui te haïssent. Seigneur, nous voulons que nos vies puissent servir à la rédemption de ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Nous voulons, ô Dieu, que tu fasses de nous des hommes et des femmes à l'image du Seigneur Jésus-Christ, afin que ton nom puisse être glorifié en toutes circonstances et que tu puisses déverser, Seigneur, ton esprit avec puissance sur chacun d'entre nous pour l'accomplissement de ta volonté et pour ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen.